Voilà, mais écoutez, ce matin, j'ai intitulé mon message tout simplement « Le miracle de Noël ». Le miracle de Noël. J'aimerais essayer de comprendre pourquoi Noël, c'est Noël, et pourquoi surtout nous célébrons Noël. Alors en fait, vous allez voir qu'un verset, on va le laisser pendant tout le message. Ça, c'est notre message, c'est Ésaïe 7,14, que je lirai dans quelques instants. Mais avant de commencer à regarder ce verset, j'aimerais vous poser une question. Voici la question. Dans toute votre vie, quel a été le meilleur cadeau de Noël que vous avez jamais reçu? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Je parle d'un cadeau, hein. Un cadeau, on déballe, un cadeau. Est-ce qu'il y a un cadeau parmi tous les cadeaux? J'aurais besoin d'un tout petit peu plus de retour, s'il te plaît, Simon. Est-ce qu'il y a un cadeau parmi tous les cadeaux qui, pour vous, a été le meilleur cadeau de tous les temps? Alors, on ne va pas tous répondre, ça nous prendrait beaucoup de temps. Il m'en faut encore, s'il te plaît. J'entends pas du tout, là. J'entends rien. Je continue. Allô? Sinon, ça m'a... Ouais, voilà, donc... Excusez-nous, petite pause. Tac. Un petit peu plus. Voilà. Voilà, ça... Bon, ben, je continue. Alors, voilà. Quel a été votre cadeau préféré? Moi, je vais vous donner le mien. J'avais environ 8 ans. J'avais deux frères. Nous avons déballé des grands cartons reçus de ma grand-mère aux États-Unis. Et c'était, tenez-vous, des Johnny 7OMAs. Je répète, des Johnny 7OMAs. C'était des grosses carabines en plastique qui tiraient des balles en plastique. Il y avait toutes sortes de balles, il y avait des grandes, des petites balles. Et on a reçu nos trois Johnny 7OMAs. On s'est mis dans le couloir chez nous et toute la journée on s'est tiré dessus. C'était génial. Ça, c'était mon cadeau préféré de tous les temps. Alors c'est vrai que lorsque j'étais un enfant, et vous aussi certainement, je ne sais pas, moi j'avais aucune idée vraiment de la vraie signification de Noël. Alors Noël pour moi c'était quoi? C'était un sapin, c'était beaucoup de cadeaux, et au fur et à mesure qu'on approchait Noël, ben, les cadeaux grandissaient, ça c'était sympa. C'était aussi bien sûr pour moi le ski parce que j'ai grandi à Genève, et donc ben, Noël c'était le ski aussi. Eh bien, pour moi, Noël, c'était... Bon, on me disait que c'était la naissance de Jésus, mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et je me demande si, pour beaucoup de gens, c'est pareil. Est-ce que beaucoup de gens célèbrent Noël sans vraiment comprendre la signification de Noël? Est-ce que la plupart des gens comprennent que Noël est en fait un miracle? Un miracle. Alors, c'est quoi un miracle? Un miracle, on peut dire que c'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire. C'est une action qui défie la nature, une action qui est surnaturelle. C'est un acte de Dieu que l'homme ne peut pas faire. C'est quelque chose d'éblouissant, de réel. C'est pour ça qu'on dit que c'est miraculeux. Alors, je dis que Noël est un miracle, ok, mais alors de quel miracle s'agit-il? Eh bien, mes amis, il s'agit d'un miracle incontestable. Un miracle net et clair, un miracle tellement éblouissant qu'il faut vraiment faire de la gymnastique spirituelle pour conclure que l'opposé est vrai. Pour conclure qu'il n'y avait pas eu un miracle à Noël. En fait, si je devais résumer Noël et le miracle de Noël en un verset, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, je choisis celui-ci. Ésaïe 7, 14. C'est Noël résumé en un verset qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » On va regarder ce verset en détail ce matin et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre Noël. Laissez-moi vous donner l'arrière-plan. Il y a très très longtemps, environ 3000 ans de cela, donc environ 1000 ans avant Jésus-Christ, qui correspond à la fin de l'âge de bronze, il y avait un homme dont le métier était celui de parler de la part de Dieu. On l'appelait un prophète. C'était un prophète. Il y avait un prophète. Et un jour, ce prophète est allé voir un roi nommé Akaz, qui était le roi en Judée. Alors il faut savoir qu'Akaz était le pire roi que la Judée n'avait jamais connu. Il avait rempli Jérusalem d'idoles. Il adora un dieu qui s'appelait Moloch, et pire, il a même brûlé son propre fils en l'offrant comme sacrifice au dieu Moloch. Et de ce fait, il a entraîné le pays dans la voie de l'idolâtrie. Alors un jour, Dieu a commandé au prophète d'aller voir ce roi pour lui dire que malgré tout le mal qu'il commettait, qu'il ne pourrait pas détruire le peuple de Dieu parce que Dieu protégerait son peuple ainsi que la lignée royale de David duquel un jour sortirait le Messie. Et avant de quitter le roi Akaz, le prophète ajoute une dernière parole qui est franchement étonnante. Il explique que Dieu allait donner un signe comme quoi ce qu'il disait était vraiment vrai, et que ce signe était lié à la venue du Messie futur. Et ce signe, ce verset qui parle de ce signe, est celui-ci. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors il ne faut pas oublier que ce verset a été écrit 800 ans ou plus avant la venue de Jésus. Mes amis, cette prophétie, elle est époustouflante. Beaucoup de personnes ont essayé de la discréditer, ont essayé de prouver que ce qu'elle dit ne dit pas vraiment ce qu'elle dit. Mais en vain. En fait, cette prophétie est tellement précise qu'elle est troublante. Elle est directement liée à Noël. Et en fait, c'est dans ce verset que nous voyons et comprenons le miracle de Noël. Alors j'aimerais dans ce verset regarder et voir cinq fêtes merveilleuses sur Noël. Cinq fêtes simples, claires, mais merveilleuses sur Noël. D'accord ? Numéro un. Voyons en premier la source de Noël. La source de Noël. Regardez, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la source de Noël. Vous voyez, tout au long de l'histoire, les gens ont lu cette prophétie, ont dit « Mais c'est pas possible, une vierge ne peut pas avoir un enfant. » Et ils ont raison. Ils ont parfaitement raison, humainement parlant. Humainement parlant, ceci n'est pas possible. Mais les premières paroles de cette prophétie nous montrent que la source de cette prophétie n'est pas humaine, mais divine. Regardez ce que ce verset dit. Le Seigneur lui-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous voyons ce qui est impossible pour l'homme, très facile pour Dieu. Par exemple, je vais vous lire un verset que vous connaissez, Genèse 1:1. C'est le premier verset de la Bible. Alors tenez-vous bien. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Pas mal pour le premier verset de la Bible, vous ne croyez pas ? Waouh ! Est-ce que Dieu est un Dieu de miracles ? Amen. Exode 14:21. Vous vous rappelez cette histoire où Moïse mène le peuple d'Israël et il sort d'Égypte, et là ils sont devant la mer Rouge. Écoutez, Exode 14:21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit à la mer à sec et les eaux se fendirent. Il dit impossible. Ah mais attendez voir. Humainement, c'est vrai. Pour Dieu, jeu d'enfant. Je ne sais pas si vous savez qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Alors, Acte 3:15 nous dit ceci. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Mon ami, note-le bien. Dieu est un Dieu de miracles. Et le miracle de Noël est un jeu d'enfant pour Dieu. Ainsi donc, nous voyons que la source de Noël est nul autre que Dieu lui-même. Dieu lui-même. Donc ça, c'est la source de Noël. Deux. 2. La certitude de Noël. La certitude de Noël. Regardez ce qu'il est dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est le « vous donnera » ici que j'aimerais souligner. Vous savez, moi, ce que j'aime avec la Bible. Écoutez, franchement, mes amis, ce livre, il est génial. C'est un livre incroyable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, il y a des certitudes. Et moi, j'aime les certitudes. Vous voyez, nous vivons dans un monde post-moderne. Vous avez déjà entendu ce terme ? Post-moderne, ça veut dire quoi exactement ça ? Eh bien, ça veut dire que les absolus sont systématiquement rejetés. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Aujourd'hui, c'est ma vérité est vraie pour moi, ta vérité est vraie pour toi. La vérité, est-ce que tu veux ce qu'elle soit ? Tu décides ce qu'est la vérité ou pas. Voyez-vous, les postmodernistes n'aiment pas ce qui est noir et blanc, catégorique. C'est pourquoi cette prophétie n'est pas très populaire chez les postmodernistes. Parce que ce verset nous dit, le Seigneur lui-même vous donnera. Absolu, certain, prouvable, certifiable, authentifiable, démontrable, clair, net, jeune fin. Moi, j'aime les choses claires. Là, c'est clair. Donc ça, c'est la certitude de Noël. La certitude de Noël. Il vous donnera. Mais il va nous donner quoi exactement ? Ah ! Trois. La nature de Noël. La nature de Noël. Regardez, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe. La nature de Noël, c'est un signe. Dieu lui-même dit qu'il allait donner un signe. C'est quoi un signe ? Alors un signe, bien sûr, c'est un miracle, mais c'est aussi un indice. Une marque de distinction, une preuve. Un miracle. Dans la Bible, le mot « signe » est souvent utilisé pour décrire justement un miracle. Pourquoi ? C'est quoi un miracle ? Pourquoi c'est important de voir ce miracle ? Ça sert à quoi un miracle ? Eh bien, un miracle, ça pointe à Dieu. Un miracle, c'est comme un panneau directeur. Vous savez, quand vous allez vous promener dans la rue, en voiture, il y a des panneaux qui vous disent « il faut aller là » ou « il faut aller là ». Ben, un miracle, c'est comme un panneau directeur dans la rue. Ce miracle pointe à Dieu, car seul Dieu peut faire des miracles. Ainsi donc, ce verset, parlant d'un signe, parlant d'un miracle, nous montre que Noël est vraiment un miracle, car ce miracle vient de Dieu. Écoutez ce que Jésus dit par rapport au miracle. Dans Jean 5, 36, il dit « Les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, parlant de mes miracles, de ces miracles, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc, ce miracle témoigne que c'est vraiment Dieu qui est impliqué dans Noël. Donc, nous apprenons que Dieu allait donner un signe, un miracle, par rapport à quoi ? Par rapport au Messie à venir. Et là, ça mène au point 4. Au point 4. Numéro 1, nous avons lu la source de Noël, la certitude de Noël, la nature de Noël. Et numéro 4, le miracle de Noël. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Le miracle de Noël, c'est quoi ? C'est que la Vierge deviendrait enceinte. C'est une affirmation. Deviendra enceinte. Ouh ! Il faut s'arrêter quelques instants et réaliser que, attendez voir, quel sujet de débat depuis des siècles et des siècles et des siècles. Attendez voir, est-ce que je voulais bien saisir ce que ce verset dit ? Ce verset affirme qu'une vierge deviendrait enceinte. Ah bon, disent certains, vraiment, une vierge est devenue enceinte? Ridicule. C'est tout simplement impossible. Alors comment répondre aux critiques? Bien, il faut déjà commencer par analyser le mot vierge ici, dans ce verset. La question est celle-ci. Le mot vierge veut-il vraiment dire vierge? Question vraiment importante, puisque c'est le mot vierge qui est utilisé, d'accord? Alors, essayons de décortiquer ce mot. Le mot hébreu, parce que ce verset a été écrit en hébreu, c'est le mot alma. Certains ont voulu traduire le mot par jeune fille, n'importe quelle jeune fille. Donc, ils ont envie de dire, ben voilà, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce qu'ils aimeraient dire, au lieu de mettre le mot vierge ici. Alors, qui a raison? Est-ce que le mot veut dire jeune fille, ou est-ce que le mot veut dire vierge? C'est quand même important. Noël en dépend. Alors, il faut savoir premièrement que le mot « alma », selon Hendrickson, n'est jamais, je dis bien, jamais utilisé dans la Bible ou autre part pour décrire une femme mariée. Mariée, jamais. Deux. La Septante, qui est une traduction grecque de l'Ancien Testament faite 200 ans avant Jésus-Christ, donc 200 ans avant Jésus-Christ, d'accord, ils ont pris la Bible hébreu et ils l'ont traduit en grec 200 ans avant Jésus-Christ. Comment est-ce qu'eux, ils ont traduit le mot « alma » ? Tenez-vous bien, le mot « vierge ». Donc même avant la venue de Jésus, la Septante traduit le mot par « vierge ». 3. Lorsque Matthieu décrit la naissance de Jésus dans Matthieu 1, 23, voici, il dit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu décrit la naissance de Jésus et traduit le mot alma par le mot vierge. Quatrième preuve, dans les années 1040, donc 1040, un célèbre savant juif nommé Rashi, qui était farouchement opposé au christianisme, a dit concernant ce verset, plus de 1000 ans après dans les années 1040, le célèbre savant juif nommé Rashi, qui était farouchement opposé au christianisme, a dit, le mot alma est une référence à une femme qui n'a jamais connu un homme, donc une vierge. Et notons bien, et ça, c'est mon argument préféré. Si le mot « alma » ne voulait pas dire « vierge », alors ce ne serait pas un signe. Ce ne serait pas un miracle. Il n'y aurait rien d'exceptionnel ici. Cela aurait été la naissance d'un autre garçon comme les autres, et donc rien d'extraordinaire. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que ce verset nous dit que cette naissance devait être un signe, un miracle, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Eh bien, une naissance virginale est certainement un signe et un miracle. C'est quelque chose de vraiment surnaturel. Car la manière normale d'avoir un enfant, c'est au travers d'un homme et une femme. Les femmes ne peuvent pas avoir des enfants seules. Ce n'est pas possible. Alors vous dites, mais alors John, alors comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Allez avec moi à Luc 1. Luc 1, à partir du verset 26. Ce sont des versets vraiment très connus, mais peut-être à la lumière de ce verset Ésaïe 7, 14, on va le comprendre différemment. D'accord? Comment est-ce que Luc décrit la naissance virginale de Jésus, le fait qu'il est né d'une vierge? Luc 1, à partir du verset 26, et je vais lire. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait de ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, et voici la clé, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Écoutez le verset 37. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Le miracle, mes amis, se trouve au verset 35. Comment est-ce qu'une vierge est devenue enceinte? L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il y a eu un miracle, mes amis. Le Saint-Esprit et Marie ont conçu un enfant. Ça, c'est du concret. Ça, c'est un miracle. C'est une chose impossible humainement parlant. Mais alors, vous posez la question, mais pourquoi? C'est quand même étrange, non? Vous trouvez pas, quand même, franchement? Honnêtement? Vous dites, mais t'as voir, pourquoi? Hein, la plupart des gens naissent normalement, hommes et femmes, enfants. Et là, tout d'un coup, femme et Dieu, enfant. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Et c'est ce que nous célébrons à Noël en plus. Noël, après Noël, après Noël, après Noël, c'est ça que nous célébrons. Mais pourquoi? Ben ça mène au cinquième point. Cinquième point, le but de Noël. Le but de Noël. Regardez ce qu'il dit. Ce verset encore. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi? Je vous donne la réponse en premier dans Matthieu 1 et verset 20. Écoutez bien. Joseph apprend que Marie, sa fiancée, est enceinte, donc il veut maintenant la divorcer. Et comme il y pensait, verset 20 de Matthieu 1, « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, écoutez bien, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Voici la clé. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la clé. C'est le but de Noël. Voyez-vous, cet enfant qui allait naître de Marie n'était pas un enfant comme les autres. Sa venue avait un but très spécifique, celui de sauver son peuple de ses péchés. Alors la question qui se pose, alors quel genre d'homme faut-il pour pouvoir sauver un peuple de ses péchés? C'est ça la question. Si Jésus allait sauver son peuple de ses péchés, alors que faut-il pour pouvoir le faire? Alors, pour vous expliquer, j'aimerais m'inspirer d'un sport, le hockey sur glace. D'accord? Alors écoutez bien, qui aime le hockey, levez la main. Waouh, très très bien. Qui n'aime pas le hockey, ne levez pas la main, d'accord? Vous êtes obligé d'aimer le hockey maintenant. Vous dites, ouais, mais je ne comprends pas le hockey sur glace. Alors, je vais vous expliquer, d'accord? C'est très simple. Il y a une patinoire, la glace, d'accord? Les joueurs chaussent des patins. Les patins, c'est pour glisser, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout, d'accord? Il y a cinq joueurs des deux équipes, et ensuite, il y a un gardien, ok? Et alors, le but du jeu, c'est qu'il y a un puck. Un puck, c'est un palais noir en caoutchouc, un truc rond, comme ça, très, très dense. Et alors, les joueurs, eh bien, ils essayent de prendre ce puck et le mettre dans le but opposé. Si tu fais ça, tu as un point. Et le but, c'est de gagner, donc d'avoir plus de points que ton adversaire. Alors là, vous avez tout compris le hockey. D'accord? Alors, John, quel est le lien entre le hockey et Noël? Il y a un lien vraiment génial. J'explique. Dans le hockey, il y a 5 joueurs et 5 joueurs. Parfois, on voit que les joueurs font des petites manœuvres illégales dans le jeu. Par exemple, il y a un joueur là, paf! Ou bien peut-être avec sa canne, schlack! Ou peut-être il lui prend la tête, paf! Hein, dans le panneau. Ou peut-être il a envie, je ne sais pas, de lui donner un coup de patin. Il y a plein de manœuvres interdites dans le hockey. Alors, si José et moi, on joue au hockey, et moi, disons, je voyais José, je lui prenais, paf, je me mettais illégalement dans la bande, on me sifflerait, et ensuite, on me dirait, John, 2 minutes dans la boîte à pénalité. Donc, de l'autre côté de la patinoire, avec honte, le patineur va jusqu'à cette boîte, et pendant 2 minutes, il est pénalisé. Qui veut dire que maintenant, il y a 5 joueurs contre 4 joueurs, et donc, l'équipe avec plus de joueurs est favorisée. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Alors, parfois, 2 joueurs sont pénalisés en même temps, de la même équipe. Ça fait 5 contre 3. Alors là, c'est vraiment un gros avantage. Et ainsi va le jeu. Ce qui est incroyable dans le hockey, c'est ceci. Si c'est le gardien qui fait une pénalité, si c'est le gardien, soudainement, qui voit un patineur qu'il n'aime pas, clac, il lui fait un croche-patte, disons, hein, et paf, il tombe. Alors, on le siffle et on lui dit, tu es fautif, tu mérites 2 minutes dans la boîte à pénalité. Mais ce qui est très intéressant dans le hockey, c'est que le gardien ne va jamais dans la boîte à pénalité. Jamais. Parce qu'ils estiment que le gardien a un rôle indispensable pour le jeu. Alors, vous savez ce qui se passe? Le gardien est coupable. Un joueur innocent prend sa place. Ils appellent un joueur et lui traverse la glace. Il n'a rien fait. Il n'était même pas dans le match. Et lui traverse la glace et il va servir les 2 minutes de pénalité pour le gardien qui lui a commis la faute. C'est quand même intéressant, vous ne trouvez pas? Eh bien, mes amis, vous avez tout compris, Noël. Nous sommes comme le gardien. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs à l'égard de Dieu. Nous avons tous violé les règles du jeu de la vie. La Bible nous dit dans Romains 6 que nous sommes en fait nés pécheurs. Qui veut dire que ma vie face à un Dieu parfaitement saint est une offense à Dieu. Et je suis pénalisé. Et le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. La mort physique, c'est pour ça que nous mourons tous physiquement. Mais la mort spirituelle, c'est pour ça que tout pécheur qui meurt dans son péché va être coupé pour toute l'éternité d'un Dieu saint. Nous sommes tous pécheurs, nous dit la Bible. Il n'y en a pas un dans le monde qui est sans faute et qui est sans péché. Et la conséquence, c'est que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes expulsés du match de la vie, théoriquement. Nous devrions l'être. Mais Dieu a offert une solution à ce dilemme. Il dit, John, toi, tu es coupable, tu peux toi-même subir la conséquence de ton péché, les peines éternelles. Ou bien, comme le gardien, Dieu dit, mais tu sais, je t'aime. Jésus est l'homme innocent. Jésus est celui qui n'a jamais péché. Maintenant, on va comprendre pourquoi il était nécessaire qu'il soit né d'une vierge. Jésus était le joueur innocent, pour l'illustration, là-bas. Moi, je suis le gardien, je viens de commettre le péché, puisque je suis né pécheur. Et Dieu dit, mon fils va aller servir la pénalité à ta place. Celui qui est innocent sert pour le coupable. Qui veut dire que je peux continuer à jouer le jeu dans la vie, étant coupable, mais innocenté, parce que le Fils de Dieu a subi ma peine pour moi. Et ce qui est merveilleux, ce n'était pas un match de hockey. Lui, il a pris la peine de la mort. Jésus est venu, il a pris ma place, il a été crucifié pour moi, il est mort pour moi. Et 3 jours plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité des morts. Il a conquis la mort, il a conquis le péché. Et avec cette résurrection, il a dit, je peux vraiment, j'ai le pouvoir, j'ai le miracle de pouvoir de te sauver de ton péché, de te pardonner ton péché. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Pour que Jésus puisse faire ça pour moi et me remplacer en ce qui concerne la peine de mon péché, il fallait qu'il soit innocent. Un autre coupable ne peut pas servir la peine d'un autre coupable. Ce n'est pas possible. La seule personne qui peut servir ma peine, c'est un homme innocent. Comment trouver un homme innocent? Comment créer un homme innocent? Il n'y a qu'une seule manière, c'est Dieu qui doit le faire. Dieu, le Saint-Esprit, a couvert Marie d'une manière miraculeuse afin que la nature pécheresse de Marie ne rentre pas dans son fils Jésus. Il y a eu un miracle par le Saint-Esprit qui a arrêté la nature pécheresse de passer à son fils. Et donc, on a eu un bébé, Jésus-Christ, le sauveur du monde, qui est né sans péché. C'est ça la clé. Et c'est pour ça que la naissance virginale a été capitale. Sans naissance virginale, mes amis, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de christianisme, et c'est un grand mensonge. Parce que c'est la seule manière de pouvoir innocenter un autre homme et de prendre sur soi sa peine. 2 Corinthiens 5, 21 confirme l'état sans péché de Jésus. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mes amis, voilà le but de Noël. Voilà le but de Noël. Voilà pourquoi ce verset est important. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, un miracle. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle allait produire un enfant sans péché, un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Il n'y a que Dieu qui est sans péché. Et donc Jésus-Christ, mes amis, était un homme, mais si on avait été là devant lui, on le voyait, ça aurait été Dieu incarné. Un homme sans péché. Incroyable. Écoutez, 2 chapitres après Ésaïe 7, dans Ésaïe 9, écoutez ce verset incroyable, Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, donc, on appellera cet enfant, tenez-vous bien, on appellera cet enfant admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et son royaume. Mes amis, quel est le but de Noël? Alors, on a un beau sapin ce matin. C'est sympa d'avoir des sapins. Nous, on a un sapin à la maison, on a mis les cadeaux. On fait comme tout le monde, c'est sympa, c'est beau. On offre des cadeaux, on fait des beaux repas aussi. Il n'y a rien de mal avec ces choses. Mais le vrai sens de Noël, c'est quoi? C'est beaucoup plus que cela. Noël, à la base, c'est un signe, c'est un miracle. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il viendrait, nous a dit Matthieu, pour sauver son peuple de ses péchés. C'est ça le but. Donc je te demande aujourd'hui clairement, directement, est-ce que tes péchés sont pardonnés par Jésus-Christ, le Sauveur du monde? Est-ce que tu es sûr, sans aucun doute, que tu es vraiment pardonné par Jésus-Christ? Ça, c'est Noël. Le plus beau cadeau de Noël que tu pourrais recevoir aujourd'hui, c'est le Sauveur, si tu ne le connais pas encore. C'est de dire Jésus. Je suis pécheur. Je suis comme ce joueur de hockey qui a été pénalisé dans le jeu de la vie. Je mérite le courroux et la colère de Dieu. Je ne peux rien faire pour me sortir de ce pétrin. Je suis pécheur et je suis coupable. Mais je vois que je peux être remplacé par ton Fils, celui qui est né sans péché. Aujourd'hui, je te demande, toi Jésus-Christ, toi Sauveur du monde, de rentrer en moi. Et s'il te plaît, pardonne-moi de tout mon péché, maintenant. Et si tu lui demandes de devenir ton Sauveur, ton Seigneur, si tu as fait appel à lui, dis, Dieu, sois avec moi. Il le fera aussi vite que ça. Le Dieu de l'univers va envahir ton petit cœur, te pardonner tous tes péchés. Et ça, mes amis, c'est le miracle de Noël. Inclinons-nous et réfléchissons juste quelques instants à ce qu'on vient de dire. Le miracle de Noël. Seigneur, nous te remercions pour Noël aujourd'hui, pour le vrai sens de Noël. Pour ce miracle incroyable. Seigneur, pour le fait que tu as pourvu un réel sauveur pour nous. Celui qui a pu être un substitut pour nous. Seigneur, nous te louons ce matin. Nous te bénissons de tout notre cœur. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas Jésus-Christ aujourd'hui comme Sauveur, révèle-toi à eux, Seigneur. Qu'ils puissent dire oui, 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 Jésus. Viens en moi et pardonne-moi. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons, Seigneur, tu nous pardonnes avec tellement de grâce. Seigneur, pardonne-nous nos manquements et même en disant cela, je sais que nous sommes pardonnés. Seigneur, nous haïssons notre péché, nous voulons te plaire. Merci de nous rappeler ces choses de base ce matin. Seigneur, nous qui méritions ta colère, tu nous as donné ta grâce, ton amour. Seigneur, nous ne pouvons que te louer et t'adorer ce matin. Te dire merci. Et merci encore. Seigneur, aide-nous à te suivre fidèlement. Aide-nous avec cette nouvelle année qui est en vue aussi de vouloir vraiment vivre des vies dignes de Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Sauveur. Seigneur, nous t'aimons. t'aimons vraiment, Seigneur. Mais tu nous aimes plus. Au nom de Jésus. Amen.